Welcome to Smart in the City, the Babble podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babble Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babble platform at babble-smartcities.eu. This episode is part of our multilingual series, hosted in a variety of languages by experts from the Babble Smart Cities team who are fluent in the language of the episode. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to the host of the day.
Bonjour et bienvenue dans Smart in the City, le podcast de Babble Smart Cities, où on parle d'innovation urbaine au sens large. Comment les villes transforment le quotidien, comment elles impliquent leurs habitants et comment elles passent de l'idée à l'impact. Je suis Jeanne Talon et je serai votre hôte pour cet épisode francophone. Et aujourd'hui, donc nous traversons l'Atlantique pour nous tourner vers la ville de Montréal, qui s'est dotée en 2024 d'une feuille de route en économie circulaire et d'un indice de circularité, devenant ainsi l'une des premières grandes métropoles d'Amérique du Nord à se positionner aussi clairement sur le sujet. Et en mai 2025, la ville est passée à la vitesse supérieure avec l'adoption de son premier plan d'action montréalais en économie circulaire. Alors, comment est-ce qu'une grande ville fait de l'économie circulaire un véritable levier de transformation économique et plus seulement une politique de gestion des déchets? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Et pour cela, je suis très heureuse d'accueillir Natacha Beauchesne, commissaire au développement économique en charge de l'économie circulaire au sein du service du développement économique de la ville de Montréal. Bonjour et bienvenue, Natacha.
Bonjour, Jeanne. Bien heureuse d'être avec vous. Je suis vraiment passionnée par l'économie circulaire et très heureuse de pouvoir en parler avec des éditeurs et éditrices.
Ouais, très heureuse de t'avoir avec nous, Natacha, aujourd'hui. C'est la tradition dans notre podcast de commencer par une sorte de mise en jambe avec une petite question un peu plus légère pour s'échauffer et pour donner aussi un aperçu du sujet à nos auditeurs avant d'entrer dans le vif du sujet. Et la question que nous avons choisie pour toi aujourd'hui est: si la ville de Montréal était un animal, quel animal serait-elle et pourquoi?
Si Montréal était un animal, je dirais qu'elle serait une licorne. Parce qu'une licorne, Montréal, un peu comme une licorne, elle est unique, elle est presque mythique. C'est une ville hybride, à la croisée de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Elle a son propre langage, sa propre identité. Donc, Montréal, c'est la métropole francophone d'Amérique. Comme la licorne, Montréal, elle est colorée, elle est créative, elle est festive. On a une vie nocturne qui est portée par une concentration exceptionnelle de festivals, été comme hiver. On a une richesse culturelle, gastronomique. On reste quand même une ville profondément humaine, verte. Donc, comme la licorne, ça relève presque du mythe. Mais Montréal, elle est ici, elle existe pour vrai.
Ah, super, c'est vrai qu'on n'a pas fait la différenciation entre animal mythique ou non mythique. Donc, je suis très fan de cette réponse. Je ne crois pas qu'on l'ait eu avant dans le podcast. Donc, super, merci beaucoup. Donc, maintenant que nous avons donné à nos auditeurs un premier aperçu de Montréal, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur toi, Natacha, et je voudrais te demander si tu pouvais nous résumer ton parcours, ce qui t'a mené aujourd'hui à ton poste à la ville de Montréal.
Moi, j'ai une formation c'est un parcours un peu atypique. J'ai une formation en marketing et en développement des affaires. J'ai un parcours initial dans des univers très variés. J'ai travaillé en événementiel pour des entreprises sportives, de vélo, entre autres, du tourisme, le secteur bancaire, les assurances, etc. Mais c'était toujours orienté vers vraiment le développement des marchés parce que j'ai toujours été une défricheuse. J'étais attirée par les terrains nouveaux, comment on peut vraiment se développer. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille à la ville de Montréal et j'ai occupé plusieurs fonctions. J'ai commencé aux relations médias, j'ai travaillé au service de l'environnement jusqu'à la direction générale. toujours été une autodidacte. C'est un parcours qui m'a permis de développer une vision très transversale de l'action publique puis de contribuer vraiment de façon stratégique. J'ai contribué, entre autres, de façon très stratégique aux trois plans de développement durable de la collectivité montréalaise de 2005 à 2020, où on mobilisait le plus de 400 parties prenantes pour transformer Montréal. Et avec le temps, justement, j'ai acquis une conviction très forte que pour transformer vraiment notre ville d'un point de vue de durabilité, il fallait aller au-delà de la sensibilisation et vraiment travailler sur l'économie. Et c'est là que j'ai passé du côté du service du développement économique. Et comme le diraient mes anciens collègues en environnement, j'étais un peu passée du côté obscur de la force. Parce que moi, je me suis dit qu'on pourrait vraiment pas réussir cette transition écologique-là sans vraiment transformer l'économie. Donc, aujourd'hui, je suis commissaire au développement économique, responsable de toute la stratégie d'économie circulaire de la ville, donc la feuille de route, son plan d'action, mais aussi sa mise en œuvre. Et mon rôle, c'est vraiment de faire le pont entre tout ce qui est innovation, les entreprises et la transition là, pour accélérer ce changement-là à l'échelle de Montréal.
Je ne pensais pas que tu avais autant de casquettes différentes et de flèches à ton arc. C'est impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a une certaine logique au final d'en arriver jusque-là.
Ça vient avec l'expérience, je dirais. Ça nous permet d'avoir fait plusieurs carrières.
Merci beaucoup. Et pour du coup maintenant rentrer dans le vif du sujet du côté obscur, comme tu le dis, j'aimerais qu'on prenne aussi peut-être un instant pour poser le contexte. Donc l'économie circulaire, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais qui peut en fait recouvrir des réalités assez différentes, surtout selon les acteurs dont on parle. Alors comment est-ce que à Montréal on définit l'économie circulaire et pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu stratégique? Pour Montréal.
C'est vrai qu'il n'y a pas de définition internationale de l'économie circulaire, mais au Québec, pour nous, l'économie circulaire, et à Montréal surtout, l'économie circulaire, ce n'est pas une série de gestes, je dirais, isolés, mais c'est vraiment une transformation systémique. Donc, nous, on a un pôle québécois de l'économie circulaire où on a défini l'économie circulaire comme un système de production, d'échange et de consommation qui repose sur des stratégies qui permettent d'optimiser l'utilisation des ressources à chacune des étapes du cycle de vie des produits dans le but de réduire les impacts environnementaux puis d'améliorer le bien-être. Dans le fond, très simplement, l'objectif de l'économie circulaire, comme on le voit, pour nous, il est double. On veut vraiment repenser nos modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et préserver nos écosystèmes. Mais on veut aussi optimiser l'utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés, donc en utilisant les produits plus fréquemment, en prolongeant la durée de vie des produits et des composants, en donnant une nouvelle vie aux ressources. Donc, concrètement, ce qu'on veut, c'est sortir du modèle linéaire là, qui est extraire, produire, consommer, jeter, pour optimiser ce qui circule déjà. Et pourquoi c'est stratégique? C'est devenu très stratégique pour Montréal, mais il y a trois raisons principales. La première, c'est la pression croissante sur les ressources. On a juste une terre et il faut en prendre soin et les ressources ne sont pas illimitées. Et c'est aussi, on l'a vu avec la pandémie, l'importance de la consolidation des chaînes d'approvisionnement. Donc ça fait partie de nos grands objectifs. Aussi, deuxièmement, on a tout ce qui est les objectifs de climatique et de résilience économique. Montréal s'est doté d'objectifs climatiques très ambitieux, de devenir une ville carboneutre d'ici 2050, d'être zéro déchet d'ici 2030, etc. Donc, ça fait partie, cette économie circulaire-là, de l'atteinte de nos objectifs. Mais finalement, c'est vraiment son potentiel de création de valeur, je pense, d'emploi et d'innovation locale qui en fait vraiment quelque chose de distinctif. Parce qu'à Montréal, c'est pas juste un enjeu environnemental périphérique, mais c'est vraiment un levier de compétitivité, l'économie circulaire, d'attractivité puis de transformation économique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est concilier performance économique et respect des limites de la planète.
Et justement, c'est avec cette démarche que Montréal est devenue la deuxième ville au monde après Munich à se doter d'un rapport sur l'écart de circularité. C'est bien ça?
Oui. Dans le fond, nous, on a travaillé avec Circle Economy, qui, dans notre milieu fermé un petit peu, est un peu notre Saint Graal, je dirais, qui est l'organisme néerlandais, qui chaque année publie, entre autres, le rapport mondial sur l'état de la circularité dans le monde. Donc, on s'est doté d'un indice de circularité. Ça a été quand même, avec les chiffres, un petit électrochoc collectif pour Montréal. Au départ, tu sais, on avait une ambition claire. Donc, on voulait se doter Montréal d'une première feuille de route en économie circulaire. On avait identifié des chaînes de valeur qui étaient prioritaires, comme la construction, le textile, le système alimentaire, les plastiques, la mobilité. Mais on voulait savoir, tu sais, il y avait une question fondamentale qui demeurait, puis c'était où est-ce qu'on en est vraiment? Donc, en faisant ce rapport-là sur l'écart de circularité avec Circle Economy, on a pu avoir cette réponse-là, mais avec des chiffres à l'appui. Donc, on avait maintenant un point de départ clair, mesurable et surtout qu'on pouvait comparer à l'international. Et pour Montréal, ben c'est seulement 3 % de circularité. Donc, autrement dit, sur les 58 millions de tonnes de ressources consommées chaque année, il y a à peine une fraction, 3 % qui est réintroduite dans notre économie. Fait que ça a confirmé que malgré tous les efforts qu'on déployait, notre économie reste encore très largement linéaire et dépendante des matières vierges. Mais encore plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a été capable de quantifier, c'est que ça nous a permis de nous doter d'objectifs graduels. Donc, on s'est dit, bon, on est à 3 % on va commencer par se donner un objectif de doubler cet indice de circularité à 6 % d'ici 2030 et à le porter à 17 % d'ici 2050. Ça peut sembler peu, 6 % de circularité, mais ce qu'on a réussi avec les calculs, avec Circle Economy, ce qu'on en a déduit, c'est que si on doublait notre indice de circularité, mais Montréal pourrait réduire quand même son empreinte carbone de 46 % et son empreinte matérielle de 38 %. Donc, c'est quand même appréciable comme gain. Puis, ça serait des gains qui seraient principalement liés à la réduction de l'extraction des matières vierges, à l'optimisation de notre utilisation des ressources, à la valorisation locale des matières. Donc, ça nous a vraiment donné un bel objectif. Donc, on dit souvent qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Fait que ça nous permettait quand même de mesurer et aussi d'agir là, pour la suite et de donner des bons arguments à nos représentants politiques et à nos représentants administratifs pour investir dans l'économie circulaire.
C'est vrai que donner cet exemple, de donner un peu plus de concret derrière les chiffres de 3%, 6%, c'est assez important aussi pour impliquer tous les acteurs concernés dans la démarche, pour comprendre, voilà, l'impact que ça aurait vraiment derrière. Et justement, du coup, cette feuille de route que vous avez construite sur cette base, elle a été construite, si j'ai bien compris, avec tout l'écosystème d'affaires et sur la base d'une consultation publique. Est-ce que c'est... Voilà, comment est-ce que s'est déroulé ce processus, concrètement?
Oui, dans le fond, notre feuille de route, elle repose vraiment sur un socle analytique assez solide qu'on a construit entre 2020 et 2024 avec plusieurs études structurantes qu'on a menées, dont celui sur le rapport sur la circularité et d'autres études, mais aussi avec l'OCDE, avec différents partenaires, où est-ce qu'on a vraiment mesuré où on en était rendu. Et à chaque étape, l'écosystème a été consulté. Parce qu'avant d'agir, ce qu'on voulait, c'était vraiment comprendre sérieusement où on en était, puis comment on pouvait aller plus loin ensemble. On a fait un choix assumé d'une approche de co-construction ouverte, transparente. La consultation publique qu'on a menée, c'était sur un projet de feuille de route qui avait été justement co-construit avec l'écosystème. Donc, avec ce projet de feuille de route-là, on a consulté 500 personnes, on a sondé, 500 personnes, on en a consulté plus de 400. On a eu plus de 100 mémoires qui ont été déposées, mais des mémoires seulement du milieu des affaires. Donc, au-delà des chiffres, là, c'est vraiment une qualité de dialogue qui a fait la différence. Et nous, notre pari qu'on faisait, c'était si on partage clairement nos ambitions, nos intentions et qu'on écoute réellement le milieu des affaires, leurs contraintes, leurs besoins, leurs idées, ben ils vont embarquer à nos côtés pour faire ce virage-là, de l'économie. Et ça a fonctionné. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est l'économie circulaire, on peut pas juste le décréter. il faut le construire collectivement. Puis je pense que c'est vraiment cette capacité-là à mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur, là, que ce soit les entrepreneurs sur le terrain, mais le milieu de la recherche, etc. C'est vraiment ça notre force à Montréal. Notre plus grand levier, c'est pas un programme qu'on peut mettre en place, mais c'est vraiment cette mobilisation-là qui nous permet d'aller plus loin.
Je suis la première à croire en la force du dialogue pour faire avancer les choses. Et justement, est-ce que du coup, de cette consultation et de ce processus de co-création, est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes qui ont été mises en place et comment est-ce que les services autour de ces actions ont été mobilisés?
Oui, on a plusieurs actions puisque nous, on a vraiment construit l'avion en vol, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'il fallait agir sur le terrain parallèlement à tout ce qui était davantage plus académique, analytique. On a une symbiose à Montréal depuis 2014, Synergie Montréal. C'est un programme de symbiose industrielle qui permet aux entreprises de transformer, dans le fond, les résidus des unes en ressources pour les autres. Depuis ces débuts, mais surtout dans les dernières années, il y a plus de 2300 entreprises qui ont été accompagnées par cette synergie, cette symbiose industrielle-là. On a étudié des milliers de symbioses possibles. Il y en a plus de 500 qui se sont concrétisées, qui ont permis de détourner 5000 tonnes de matières résiduelles, d'éviter 5500 tonnes de GES, tout en générant des retombées économiques. C'était très concret. On a aussi créé, quand on dit Montréal innove beaucoup par sa collaboration, on a participé à la création du Fonds en économie circulaire, qui est le premier fonds d'investissement privé dédié spécifiquement à l'économie circulaire au Canada, qui a été développé avec Fonds d'action, qui est un fonds en capital de risque privé, d'investissement en capital de risque privé, Recyc Québec, qui est un peu notre ADEME, donc qui est un peu notre agence gouvernementale liée à la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est vraiment un fonds stratégique qui a réussi à mobiliser plus de 25 millions de dollars en capitaux privés pour soutenir vraiment des modèles d'affaires circulaires. Donc, si je vous donne juste quelques chiffres, depuis sa mise en place, juste cette initiative-là, on a pu valoriser près de 17 000 tonnes de matière, substituer 10 000 tonnes de matière vierge et éviter plus de 11 000 tonnes de GES. On a aussi lancé un programme de soutien au diagnostic en économie circulaire parce que c'est le fun de pouvoir soutenir des entreprises qui ont des modèles d'affaires circulaires, mais on sait que parmi nos 64 000 établissements d'affaires à Montréal, la majorité ont un modèle d'affaires linéaire. Donc, notre objectif était très concret. On veut aider les entreprises à comprendre où sont leurs pertes réelles, notamment grâce, je sais pas si vous avez ça en France ou en Europe, mais des analyses comptables de flux de matière, des ACFM. Et cet outil-là, c'est très révélateur. C'est quand on intègre non seulement le coût de la levée, de l'enfouissement des matières résiduelles, mais surtout le gaspillage, l'entreposage, la manutention, les ressources humaines, on se rend compte que la gestion des matières résiduelles, souvent, ça coûte 20 fois plus que l'entrepreneur le pensait. Donc, au lieu que ça lui coûte 20 000 $ par exemple, par année, ça peut lui en coûter 200 000. Alors, à partir de là, la circularité cesse d'être perçue un peu comme une contrainte environnementale, mais ça devient vraiment une décision d'affaires logique avec un retour d'investissement clair. Ça, c'est des initiatives qu'on a fait avec l'écosystème, mais on travaille également à l'interne. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on essaie vraiment d'utiliser la ville comme un levier stratégique. Donc, l'exemplarité de la ville. Si on prend seulement nos approvisionnements, notre approvisionnement à Montréal, on fait plus de 3 milliards de $ d'achats publics par année. On a commencé à intégrer progressivement des critères de circularité dans notre politique d'approvisionnement responsable pour vraiment envoyer un signal là, au marché et puis créer des débouchés pour les solutions circulaires. Donc, c'est juste un exemple des actions qu'on a entrepris. Notre plan d'action montréalais, comme vous parliez tout à l'heure, le premier plan d'action triennal, il comporte 20 grandes actions qui découle sur plus de centaines d'initiatives, mais l'ensemble de l'écosystème est mis à profit pour aller plus loin.
Il y a un choix qui me semble particulièrement intéressant et un petit peu à contre-courant pour Montréal, c'est justement le fait que l'économie circulaire soit portée par le service du développement économique et pas uniquement par le service de la gestion des matières résiduelles, comme c'est souvent le cas ailleurs. Du coup, pourquoi avoir fait ce choix? Enfin, ça rentre dans la logique de tout ce que tu nous disais, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans la manière dont la transition est conduite?
Oui, nous, c'est un choix très assumé et surtout très stratégique que ce soit le service du développement économique qui porte l'économie circulaire. Parce que pour nous, c'est pas juste une question de matières résiduelles, c'est avant tout une question de transformation des chaînes de valeur, des modes de production et des modèles d'affaires, comme j'en discutais plus tôt. Nous, on veut parler de création de valeur, de productivité de ressources, de compétitivité des entreprises. On change complètement le discours. On parle plus juste de contraintes environnementales, mais plutôt d'opportunités économiques concrètes. Montréal, dans le fond, c'est 2 millions de personnes, mais c'est 1 million d'emplois. Puis, comme je le disais, 64 000 établissements d'affaires, c'est vraiment le poumon économique du Québec. Donc, le service du développement économique, c'est l'unité la mieux placée dans l'appareil municipal pour accompagner directement les entreprises dans la transformation. J'en parlais aussi, la pandémie, ça a été très révélateur. Il y a eu beaucoup de ruptures d'approvisionnement qui ont montré à quel point notre économie est vulnérable. Et miser sur la circularité, sur la production locale, sur les matières qui sont déjà en circulation sur notre territoire, mais c'est une opportunité aussi de résilience économique. Et au-delà aussi de l'enjeu environnemental, comme on en parlait, il y a un potentiel économique quand même énorme à l'économie circulaire. Si je vous donne un exemple très, très, très concret, à Montréal, par exemple, on a évalué que le gaspillage alimentaire s'est estimé à plus de 3 milliards de dollars par année, dont environ 1 milliard, le tiers, pourrait être évité. Fait que notre but avec l'économie circulaire, c'est vraiment de venir récupérer cette valeur-là qui est perdue, puis la remettre dans l'économie locale. Donc, nous, c'est vraiment, on veut transformer réellement l'économie, les chaînes de valeur, les décisions d'investissement en accélérant l'action climatique. C'est porté, oui, par le service du développement économique, mais je tiens quand même à le souligner que on le fait très en étroite collaboration avec les autres services municipaux, que ce soit justement le service de l'environnement ou d'autres services comme le service des infrastructures routières, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui sont utilisées dans nos routes, au secteur de la construction. Donc, on travaille vraiment en collaboration. On fait des études, on va faire des études avec volet environnemental, mais volet économique aussi, pour pouvoir prendre vraiment des décisions éclairées. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a choisi cette façon de faire-là, puis je dois dire jusqu'à maintenant que ça nous réussit assez.
Ça a l'air, c'est sûr. Et tu parlais justement de la manière dont vous accompagnez les entreprises justement dans leur transition. Mais si chez Babel, on s'intéresse souvent à la manière dont le secteur public et le secteur privé dialoguent, et surtout comment, enfin, on essaie d'aider les villes et les entreprises à un petit peu mieux se comprendre, surtout quand les entreprises ont une solution qui pourrait être intéressante pour les villes. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, s'il y a des entreprises aujourd'hui qui nous écoutent et qui développent des solutions d'économie circulaire et qui souhaiteraient proposer cette solution à une grande ville comme Montréal, qu'est-ce qu'elles devraient comprendre de la réalité d'une administration municipale telle que Montréal, et qu'est-ce qui rendrait la solution réellement attractive pour Montréal au-delà de la technologie ou du produit lui-même?
Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que l'économie circulaire, en tout cas, ça ne se limite pas seulement à vendre un produit innovant. Comme j'en parle depuis le début, c'est vraiment une transformation de toute la chaîne de valeur. Donc, nous, en tant que ville, on peut appuyer, on peut faciliter, on peut créer des conditions favorables, mais on ne va pas se situer au marché, dans le fond. Un bon exemple, j'ai un entrepreneur maçon à Montréal, Brique Recycle, qui a inventé, je dis Brique Recycle, c'est Tony Bouillon, l'entrepreneur, qui a inventé Brique Recycle. C'est une machine pour nettoyer des briques directement sur les chantiers pour pouvoir les réemployer. Son innovation est excellente, mais il a vite compris que c'était pas suffisant Parce qu'après ça, il faut convaincre les assureurs, les architectes, ceux qui rédigent les devis, les donneurs d'ouvrages. Bref, tout un écosystème pour qu'ils utilisent cette innovation-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des entreprises qui viennent s'intégrer dans cet écosystème-là, ces maillons manquants-là aussi qu'on a de besoin. On voit la même chose qu'on a dans... On a une belle entreprise d'économie sociale, Renaissance, pour ne pas la nommer, à Montréal, qui s'est investi d'une mission qui, à la base, avait une mission d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, et qui maintenant est vraiment une entreprise d'économie circulaire qui fait le réemploi des textiles, mais qui a des projets d'usines de recyclage, qui veut augmenter le réemploi, le pourcentage de réemploi ici. Donc, qui prend vraiment une mission sociale qui va au-delà de son entreprise. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Montréal, c'est un terreau fertile pour le type d'initiative, qu'on est en train de changer à l'interne, comme je le parlais, en approvisionnement et autres, on est en train de changer nos façons de faire pour pouvoir de plus en plus contracter ce type d'initiative-là. Mais aussi, c'est surtout l'important, c'est qu'il va falloir, il faut que l'initiative travaille à s'intégrer dans le système, à être pour qu'on puisse l'opérationnaliser à l'échelle puis aller plus loin. Donc, travailler avec une ville comme Montréal, je dirais, c'est vraiment pas juste vendre un produit, c'est vraiment proposer une solution qui est plus intégrée dans l'écosystème.
Quelque chose sur le long terme, donc.
Oui.
Et au niveau de Montréal, alors, est-ce qu'il reste encore un défi à relever pour véritablement ancrer l'économie circulaire dans la durée, justement? Est-ce que selon toi, il manquerait quelque chose aujourd'hui pour aller plus vite ou plus loin?
Notre principal défi, là, je dirais, c'est clairement le changement d'échelle. On dispose, comme je disais, d'outils, de diagnostics, etc., mais notre véritable enjeu, c'est vraiment d'être capable de déployer ces solutions-là plus largement, plus rapidement, pour que ça devienne la norme plus que l'exception. On a encore certaines conditions structurantes, je dirais, à renforcer à Montréal, notamment d'avoir un cadre réglementaire économique qui favorise réellement l'économie circulaire. Il y a plusieurs signaux qui sont encore imparfaits du marché. Je pense aux coûts relativement faible pour enfouir, au prix des matières premières vierges qui demeurent quand même bas, aux externalités environnementales et sociales qui ne sont pas pleinement intégrées dans les coûts. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que les solutions circulaires doivent souvent se battre, je dirais, à armes inégales. Donc, je pense qu'il faut continuer. Il faut aussi avoir des leviers financiers adaptés pour aider ce passage à l'échelle-là, en particulier pour les PME. Ça, c'est plus difficile. Renforcer cet alignement-là entre les différents niveaux de gouvernance, là, que ce soit municipal, provincial, fédéral, pour que lorsque je parle aux entreprises, souvent ce qu'on me dit, c'est nous ce qu'on veut, c'est de la prévisibilité. C'est ce qui va permettre d'être favorable à des investissements. Donc, l'importance de se doter d'une feuille de route, d'un plan d'action. Même si on ne l'a pas, nous, au niveau fédéral, présentement, au niveau provincial, la province de Québec, c'est aussi doté d'une feuille de route, d'un plan d'action. Donc, on est capable de dire aux entreprises vers où on s'en va. Mais on voit qu'il nous manque encore peut-être du travail à faire au niveau plus à l'échelle du pays, à l'échelle de la structure, là, vraiment, de l'économie.
Et toujours le nerf de la guerre, ça reste aussi, voilà, trouver les sources de financement pour accompagner tout ça. On arrive à la fin de notre entretien principal. Et avant de passer à la suite, je voulais te demander s'il y avait un sujet que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder et que tu souhaiterais partager avec notre audience.
Je dirais que la transition vers l'économie circulaire, puis c'est pas un jeu de mots, mais c'est pas un parcours linéaire. Je pense que c'est un processus qui va être fait d'expérimentation, d'ajustement et parfois d'erreurs. Et c'est normal et je pense qu'il faut oser. Et nous, comme je le disais, on construit l'avion en vol, on essaie de créer des conditions pour que les athlètes puissent tester, collaborer, puis faire évaluer leurs pratiques. mais faut vraiment faire une transformation culturelle, donc avoir une autre façon de concevoir notre valeur puis la performance. Moi, je pense qu'à Montréal, on est quand même chanceux, comme je le disais, parce qu'on a un écosystème montréalais qui est prêt à s'engager collectivement dans cette transition-là, qui est appuyé par plein de ressources. Au Québec, on a le réseau de recherche québécois en économie circulaire, qui est le plus grand réseau de recherche, je pense, au monde. En tout cas, c'est ce que dit toujours son porte-parole. Le plus grand réseau de recherche au monde qui rassemble plusieurs centaines, 400, je pense, qui sont rendus chercheurs de différents secteurs en lien avec l'économie circulaire. Donc, on est capable d'être appuyé par un écosystème qui est très fort et qui nous permet d'aller dans cette voie-là. Mais ce que je dirais, c'est que aux gens, c'est d'oser. Je pense que c'est vraiment ça, d'oser commencer puis de se donner le droit à l'erreur dans cette transformation-là.
Le droit à l'erreur, justement, c'est une très très belle transition vers la prochaine partie de notre podcast, une partie récurrente où qu'on consacre généralement à un petit jeu. Et en l'occurrence, pour cet épisode, j'ai choisi le segment Trial and Errors.
Trial and error. What went wrong? What mistakes were made along the way? And more importantly, what lessons were learned?
Un des apprentissages là, importants pour nous, ben pour moi en tout cas, je vais parler très au niveau très personnel, je pense, ça a été de comprendre que même si on avait des bons arguments économiques ou environnementaux, souvent ça suffit pas pour provoquer le changement. C'est très, très difficile de convaincre des entrepreneurs de transformer un modèle d'affaires qui fonctionne parfois depuis 20 ans ou 30 ans, qui est rentable, même si l'enjeu environnemental est clair. Le réflexe naturel de l'entreprise, c'est de protéger un peu ce qui fonctionne déjà. Donc, ce qu'on a appris, je dirais, c'est que on a appris qu'on doit parler à la fois à l'environnement, à l'économie, mais aussi beaucoup à l'opérationnel. Et c'est là vraiment, lorsqu'on commence à parler de réduire des impacts, de sécuriser les approvisionnements, de gérer des risques, c'est vraiment là qu'on a pu faire évoluer notre approche. Je pense qu'au départ, on allait avec nos grands objectifs ou nos grands argumentaires qui étaient davantage des argumentaires écologiques, parfois économiques, mais on n'allait pas beaucoup dans l'opérationnel. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire une différence lorsqu'on s'adresse au milieu des affaires.
Je suis complètement d'accord et je pense que même au niveau de la vie de tous les jours, du quotidien, des citoyens, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est cet accompagnement au changement qui est très important. Il faut toujours se rappeler que de ramener justement les objectifs stratégiques un peu au quotidien finalement des gens, parce que c'est ce qui nous intéresse tous quand à la fin de la journée, c'est est-ce que mon arrêt de bus sera encore en travaux ou est-ce que je pourrais prendre mon bus en bas de chez moi.
Donc exactement.
Ouais, très important. Maintenant, on en arrive à la toute dernière question de notre entretien et c'est une question qu'on pose à tous nos invités dans toutes les langues. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être une smart city, une ville intelligente?
Moi, je n'englobe pas juste seulement le technologique quand je parle d'une ville intelligente. Pour moi, une ville intelligente, c'est une ville qui innove, qui ose, qui travaille étroitement avec son écosystème pour mieux utiliser, oui, les données puis l'intelligence collective, mais c'est surtout, dans le fond, une ville, je pense, qui expérimente, qui apprend, puis qui place l'humain au cœur de ses décisions. Fait que c'est, pour moi, une ville intelligente, c'est un peu tout ça.
Ça recoupe beaucoup des réponses qu'on a pu entendre. Donc, c'est vrai que parfois, on a des réponses un peu surprenantes, mais il se dégage quand même un peu une définition commune de plus en plus. Donc, c'est ça qui est assez inspirant, finalement, dans le podcast. C'est que, au début, on retrouvait toute une diaspora de compréhension derrière un concept qui est en fait un concept un peu tiroir. Et de plus en plus, quand même, nos invités se retrouvent sur certains points. Notamment celui de mettre l'humain toujours au cœur de la transition. Merci infiniment. Natacha, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et d'avoir partagé avec nous l'expérience montréalaise en matière d'économie circulaire. On arrive donc à la fin de l'entretien et c'était vraiment une conversation très intéressante. Donc, je te remercie.
Ça a été un plaisir. Merci. Puis au plaisir de vous accueillir à Montréal si jamais vous décidez de venir visiter notre belle ville.
Je note l'invitation. J'espère que nos auditeurs le font aussi. Et justement, à tous nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez également toujours créer un compte sur babel-smartcities.eu pour en savoir plus sur les projets, les solutions, les mises en œuvre des villes intelligentes et durables partout en Europe et dans le monde. Merci à tous.
Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life.